donc, vous me donnez une quarantaine de minutes, c'est ça?
Tout à fait.
D'accord. Pour ce qui concerne le passage des diapos, il faut, c'est, je vous fais un signe comme ça ou il y a un...
Vous avez un
petit pointeur
Non.
Non. Mais ça ne va pas être pratique hein, si je vous fais signe à chaque fois. Ça va faire bizarre dans la salle.
Je vais être
comme ça en permanence. Ça serait parfait. Et ça, ça permet de passer les diapositives, c'est ça?
Oui.
Ok. Ah, voilà, ça y est. C'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Merci beaucoup. Bien. Oui, donc je suis historien, historien de la médecine et plus particulièrement de, on va dire, du champ psy, psychothérapie et psychiatrie. Et pour vous citer un de mes derniers travaux, j'ai publié une histoire de la psychiatrie sur 2 siècles à partir des archives sartoises. Hein, ça s'appelle Chronique de la psychiatrie ordinaire. Et ça reconstitue l'histoire à la fois de l'institution et puis l'histoire des patients. C'est un petit peu ce qui m'occupe en ce moment, c'est-à-dire comment on peut faire une histoire de la psychiatrie à partir des dossiers de patients et non plus seulement du discours des médecins. Alors l'histoire de l'architecture psychiatrique que je vous propose, hein, qui est une histoire, il sera peu question d'architecte, mais finalement, en historien, moi, j'ai choisi plutôt de mettre l'accent sur les différents contextes historiques qui, au XIXe siècle et au XXe siècle, des contextes historiques, politiques, sociaux, qui vont susciter telle ou telle architecture. Je vais amorcer cette réflexion en évoquant une controverse qui est une controverse qui date des années 1860 et qui oppose deux hommes dont les statuts sont très très différents. Le premier, donc il n'y a pas de portrait, mais vous avez un extrait d'un de ses ouvrages, s'appelle Léopold Turc. C'est un médecin qui est un militant de la gauche vosgienne républicaine de la première heure, qui a été représentant à l'Assemblée nationale de 1848. Donc c'est un grand républicain, une grande figure républicaine, qui s'intéresse à la psychiatrie depuis les années 1840. Il a publié un petit mémoire sur la folie et ses traitements, en 1845. Mais l'ouvrage qui va mettre le feu aux poudres dans cette controverse, c'est celui-ci, hein, encore les aliénistes et les asiles, ça date de 1865. Il envoie une pétition au Sénat, contre les aliénistes, en accusant notamment les asiles, non pas, je dirais en disant que les asiles ne guérissent pas, mais en accusant les asiles de créer la maladie mentale. Alors évidemment, à cette attaque extrêmement virulente de Léopold Turc, va répondre Maximilien Parchap de Vinet, qui est un personnage extrêmement important du milieu aliéniste du XIXe siècle. C'est quelqu'un qui est aliéniste lui-même, hein, qui travaille dans l'hôpital de Saint-Yon, près de Rouen, dans les années 1840. Et il devient surtout, et c'est ça qui nous intéresse le plus, inspecteur général des asiles en 1848. Et c'est lui qui va être, en tant qu'inspecteur général des asiles, c'est une fonction qu'on va retrouver très importante dans cette histoire de l'architecture psychiatrique, il va être le promoteur d'un asile à la française. C'est une expression qu'on trouve dans ses travaux des années 1860. Et Parchap de Vinet va répondre immédiatement, quelques mois plus tard, dans le cadre de la société médico-psychologique que vous connaissez bien, à cette attaque de Léopold Turc. Et on met, en quelque sorte, à travers cette controverse de 1868, on met la question de l'architecture psychiatrique dans le débat public. Alors, quels modèles architecturaux défendent ces hommes ? On va commencer par celui de Parchap de Vinet, qui est donc l'inspecteur général des asiles. Ce qui est important de remarquer dans un premier temps, c'est que la loi de 38 ne donne pas de prescription légale en matière architecturale, et donc ce sont les inspecteurs généraux qui vont délivrer les modèles à suivre et appuyer sur tel ou tel modèle. D'où l'importance des recommandations de Parchappe qui, en 1853, dans un ouvrage qui s'appelle « Des principes à suivre dans la fondation et la construction des asiles d'aliénés », eh bien, Delibes qui va être le modèle de ce qu'il appelle l'asile à la française. Alors, ces recommandations concernent surtout le plan des établissements, concernent surtout la répartition des patients dans les quartiers, j'y reviendrai, elle concerne pas tellement l'apparence architecturale, la forme architecturale, et là, au XIXe siècle, peuvent se développer tous les styles architecturaux régionalistes possibles. Alors, un des plans modèles, je reviendrai sur ce graphique tout à l'heure, mais un des plans modèles qui va apparaître dans le traité de Parchappe, c'est celui de l'asile du Mans, édifié entre 1829 et 1834, et Parchappe le cite comme le modèle le plus abouti, finalement, de ce qu'il souhaite défendre. Alors, vous en avez ici le plan original donc de la fin des années 1820, avant les extensions ultérieures. Alors, qu'est-ce que vous avez... Donc, ce plan modèle, il se répartit autour d'un axe central qui contient à la fois les services généraux et puis, je dirais, le service religieux, avec les religieuses qui jouent évidemment toujours un rôle très important. Un axe de symétrie autour duquel on trouve à gauche les pavillons des hommes, à droite le pavillon des femmes, et puis auxquels vont s'ajouter, mais on ne l'a pas ici dans le plan original, des pavillons, des pensionnats pour hommes et pour femmes sur la gauche et sur la droite. Ça, c'est le plan extrêmement qui va devenir le plan classique et dans lequel on trouve ici les pavillons cellulaires pour les ce qu'on appelle encore à l'époque les furieux. Voilà le modèle, donc séparation des sexes, importance du religieux, indépendance des quartiers, vous le voyez, autour de cours fermées, présence des galeries ici qui permettent la circulation dans l'établissement, et puis auxquels on va ajouter, donc je le disais tout à l'heure, des pavillons pour pensionnaires. Ça, c'est un plan extrêmement classique dont on va retrouver des déclinaisons tout au long du XIXe siècle. Je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, l'asile de Rodez, construit en 1852, est tout à fait similaire à celui-ci. Alors, ce plan, par rapport au programme qui était défendu par la génération précédente, celle d'Esquirol, il présente deux différences majeures, et c'est une question récurrente pour les architectes qui travaillent pour les hôpitaux psychiatriques. C'est la question de l'élévation des bâtiments. Ici, on a des bâtiments qui sont sur un seul étage, et qui sont sur deux étages, pardon, alors que le programme esquirolien de la génération précédente prévoyait uniquement des établissements en rez-de-chaussée. Et puis, on a un établissement qui, je dirais, regroupe les patients en fonction non des classements scientifiques de l'époque, mais des comportements. Déjà, on a ça, quelque chose qui devient une évidence à partir de ces années 1830. Il s'agit d'un asile qui doit regrouper dans ses parties, donc les agités, je le disais tout à l'heure, mais un pavillon pour les tranquilles, un pavillon pour les gâteux. Il ne s'agit pas de regrouper en fonction des pathologies scientifiquement établies. Alors, ce modèle va s'appuyer sur un développement statistique important avec une prévision. Vous le voyez ici, une prévision par Parchappe du nombre d'aliénés de chaque type, d'aliénés malpropres, agités, etc., de tranquilles, et donc modèle statistique auquel les architectes vont devoir se référer à partir des années 1850 pour construire leurs établissements. Dernier aspect que je voulais évoquer sur ce premier modèle, c'est un modèle qui consacre le passage de l'asile cellulaire. Ici, vous avez un projet qui était, par exemple, évoqué pour Le Mans dans les années 1820. Vous voyez que c'est un asile construit uniquement de cellules individuelles pour la gestion des furieux, de la fureur des aliénés, alors qu'on passe, et ici, vous avez le plan des... d'un pavillon de la fin du 19e siècle pour l'asile du Mans, on passe au modèle de l'asile dortoir, hein, dans lequel on va avoir des dortoirs de 40 à 100 individus. C'est quelque chose qui est une... Parchab dit qu'il faut passer du système cellulaire au système du dortoir, même si il évoque bien évidemment toujours le maintien d'un quartier cellulaire, de cellules individuelles, et c'est intéressant, en reprenant ce traité de 1853, on s'aperçoit qu'il donne des statistiques, et il explique que dans la première moitié du 19e siècle, dans toute l'Europe, les asiles comprennent environ 10 à 20% de places individuelles, de cellules individuelles, sur l'ensemble des places de l'hôpital. Parchab explique en 1853 que désormais, il faut réduire cette proportion de cellules individuelles et la faire converger vers le taux de 5%. Je ne sais pas si ce sont des taux qui correspondent exactement à des choses qui existent pour le 20e et le 21e siècle. Alors, ce modèle à la française, défendu par Parchab en 1853, est violemment attaqué, on l'a vu, par Léopold de Turck. Et Léopold de Turck, lui, se réfère à un tout autre modèle. Il va chercher ce modèle à l'étranger, il va le chercher en Belgique. Il se réfère à un modèle qui va être le modèle, je dirais, de tous les contestataires de l'asile au XIXe siècle. C'est le modèle de la colonie de Geel en Belgique, près d'Anvers, qui est une colonie familiale dans laquelle, finalement, il y a assez peu d'architecture psychiatrique et qui s'appuie sur un ancien pèlerinage de guérison pour les fous qui existe depuis le VIIe siècle. Pèlerinage de guérison qui a été en quelque sorte récupéré par les médecins au début du XIXe siècle, par un aliéniste qui s'appelle Guillain, qui en 1820 fait remarquer à ses collègues, regardez, là il y a quelque chose d'intéressant, hein. on a des aliénés qui travaillent dans les fermes et qui habitent chez l'habitant, hein, qui habitent dans le village parmi les familles. C'est, grosso modo, c'est un système nourricier, si vous voulez. Hein. Ils sont en nourrice chez les habitants. Donc le système a perduré pendant de longs siècles et il est en quelque sorte médicalisé au XIXe siècle. Et il est institutionnalisé par l'État belge en 1851, précisément au moment où Parchab, lui, avance le modèle de l'asile à la française. C'est un site qui va se développer au XXe siècle. Hein. Vous avez ici en bas des constructions du début du XXe siècle. C'est une institution qui n'est pas négligeable en termes de quantité de masse de patients accueillis, puisque c'est 800 patients hein, qui sont des deux sexes qui sont accueillis au XIXe siècle après les années 1850. Alors, le voyage à Geel, en Belgique, va devenir, je dirais, pratiquement obligatoire pour les aliénistes européens dans les années 1840-1860. Et c'est précisément ça qui alimente la controverse dans les années 1860. Cette controverse, elle se poursuit au moment de l'exposition universelle de 1867, durant laquelle un homme qui s'appelle Jules Duval, c'est son nom ici, hein, va soutenir précisément en France, en 1867, le modèle de Geel et de la colonie d'aliénés vivant en famille et en liberté. Jules Duval, qui sait, c'est un utopiste en fait, hein, c'est un fourriériste, qui va précisément défendre ce modèle de la colonisation familiale. Il se trouve que lui-même a participé à la colonisation algérienne avec les socialistes utopiques quelques années auparavant. Donc il pense que c'est un modèle qui peut s'étendre finalement à de nombreux domaines. Et qu'est-ce qu'il fait ? À l'exposition universelle de 1867, il va rendre public, contribuer à la publicité d'un modèle de maison familiale qui est présenté par un homme aujourd'hui méconnu, mais que les historiens allemands ont fait réexister, en tout cas pour les historiens. C'est le baron Mundi, c'est un Autrichien, qui défend ce modèle de la colonie familiale et qui présente à l'exposition universelle de Paris une maison familiale de prise en charge psychiatrique. Alors, j'ai pas retrouvé d'image de cette maison familiale de prise en charge psychiatrique. Mais Duval en donne une description dans ce bouquin. Si ça vous intéresse, vous le trouverez sur le site de la Bibliothèque nationale qui numérise beaucoup d'ouvrages du 19e siècle. Ça s'appelle Gallica. Vous pourrez avoir accès à son bouquin. Il y a une description en plusieurs pages très précise dans laquelle il dit qu'au fond, ces maisons familiales de prise en charge psychiatrique, elles doivent faire 100 mètres carrés avec divisé en deux, une partie pour la famille, une partie pour l'aliéné mis en nourrice. Et alors il y a tout un chapitre sur les systèmes de sécurité, les grilles, les portes coulissantes. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est tout ça est très très intéressant. La protection des cabinets de bain, tout ça est très très original. Bon, ça ne fait pas du tout école. Ce modèle de prise en charge familiale des patients recueille les critiques à la fois du côté français et du côté allemand, très rapidement. Donc ça n'a aucune influence dans les années 1860. Ça en aura un petit peu plus tard. Alors qu'est-ce qu'on construit à partir de là ? Eh bien, on est un peu dans un statu quo, c'est-à-dire que les aliénistes vont devenir des piliers du régime du Second Empire dans les années 60, et vont obtenir, notamment dans le cadre de la grande politique d'osmanisation parisienne, vont obtenir en 1862 un programme de construction de nouveaux asiles. Sainte-Anne, qui est juste en face, en fait partie. Et puis Ville-Évrard aussi, que vous avez là. Mais si vous regardez le plan de Ville-Évrard, on est sur quelque chose qui est exactement le modèle à la française défendu par Parchap. On est exactement sur le plan de l'asile du Mans ou sur le plan de l'asile de Rodez. Il n'y a absolument aucune différence. Donc on reste dans un statu quo de défense de l'asile à la française. Il n'y a qu'une exception en France à cette époque-là, c'est celle-ci. C'est une fondation privée qui s'appelle la Fondation John Bost, qui existe encore, qui se trouve en Dordogne, et qui accueille à l'époque beaucoup d'épileptiques, et qui va développer un système pavillonnaire, cette fois-ci tout à fait unique en France au XIXe siècle. Je l'explique tout simplement cette exception parce que la fondation de John Bost est une fondation protestante qui fonctionne à partir de fonds suisses et anglo-saxons, et probablement le modèle britannique, là, passe, par le biais de ce financement et de cette culture protestante. Voilà, me semble-t-il, la seule exception au modèle français. Alors, à la fin du XIXe siècle, la conjoncture change considérablement. Je vais assez rapidement sur ce phénomène, mais j'en donne quelques mots pour bien qu'on comprenne dans quel contexte s'inscrivent les nouveaux programmes architecturaux. Le phénomène essentiel, c'est la croissance de la démographie asilaire à la fin du XIXe siècle, qui est soutenue par plusieurs facteurs. D'une part, on hospitalise de nouvelles catégories d'âge, des personnes âgées, des enfants, des adolescents. On développe aussi la prise en charge des alcooliques, l'alcoolisme étant une maladie, construite dans les années 1870 par les médecins. Et puis, on hospitalise de très nombreux malades atteints de la syphilis et qui développent la paralysie générale. Ce sont des catégories de patients qui vont faire finalement la majorité là, de la population asilaire. Ces évolutions démographiques qui vont générer un encombrement asilaire que tous les asiles pratiquement ou presque connaissent vont générer une nouvelle critique sociale de l'asile. Et on voit apparaître à la fin du XIXe siècle des campagnes anti-asilaires extrêmement violentes. Vous en avez ici quelques images qui sont tirées d'un journal qui s'appelle L'Assiette au beurre et qui date du début du XXe siècle, où on met en cause notamment les internements arbitraires, les accidents dans les asiles, notamment causés par la mise au bain pendant une demi-journée, une journée dans l'eau chaude, etc. Les oublis de patients. Vous avez une campagne extrêmement violente contre les asiles qui va rejaillir évidemment dans la controverse architecturale. Dans ce contexte, les années 1880-1914 vont naître trois nouveaux modèles architecturaux. Alors, le premier modèle, et je reviens sur l'influence un petit peu tardive de la colonie familiale, Il naît de la réflexion notamment des institutions parisiennes qui avaient pour habitude de déplacer en province des patients qu'elles ne pouvaient finalement prendre en charge sur place. Et c'était un système qui coûtait extrêmement cher finalement aux institutions parisiennes. On a décidé à la fin du XIXe siècle de créer dans le centre de la France des colonies familiales, un petit peu sur le modèle de Gaël et du système nourricier. Alors, c'était aussi souvent des régions d'ailleurs qui faisaient travailler de très nombreuses nourrices pour les enfants de l'assistance publique. Donc c'est un système qu'on connaissait bien, hein, qu'on a adapté en quelque sorte en psychiatrie. Et le système de Dun-sur-Oron ou d'Enel-Château, hein, ici vous avez une image de Dun-sur-Oron, va être développé à la fin du XIXe siècle. C'est un système donc dépendant des institutions parisiennes. Là aussi, on a, une filiation assez lointaine de la réflexion sur la colonie de Gaël. Le deuxième modèle qui se développe, c'est le modèle hygiéniste. Hein, on est en pleine période de diffusion des idées de Pasteur, de diffusion du modèle hygiéniste. Et les inspecteurs généraux vont favoriser, toujours dans ce modèle de l'asile à la française, la plus grande dispersion, en tout cas la séparation des pavillons et la suppression des galeries. C'est ce qui donne lieu à la production alors de plusieurs ouvrages, mais notamment celui d'Armentières. Alors je crois qu'il y a des gens qui connaissent bien l'histoire de cette institution, donc je vais faire attention. Voilà, je vais faire attention à ce que je dis, mais ici vous avez une image d'Armentières avant la destruction pendant la Première Guerre mondiale, donc et puis la reconstruction des années 20, je crois, d'après ce que j'ai pu en entendre tout à l'heure dans une discussion avec les soignants d'Armentières et de Roubaix, qu'on est toujours sur ce plan ici. On voit bien que il s'agit non plus de relier ces pavillons par des grandes galeries couvertes, etc., mais il s'agit de séparer les pavillons. On est là dans une application maximale pour la fin du XIXe siècle du modèle hygiéniste. Et puis le troisième modèle, alors le modèle hygiéniste, vous l'avez aussi pour Villejuif, par exemple, ici, construit à partir de 1889. Le troisième modèle, on va le chercher à l'étranger. On se remet à voyager, comme dans les années 1860, on allait chercher en Belgique. Cette fois-ci, on va chercher en Allemagne. On va chercher en Allemagne, et c'est notamment le docteur Paul Sérieux qui, dans une grande enquête de 1903, visite les asiles allemands, les asiles du nord de l'Italie, et puis quelques asiles de l'est de la France aussi, notamment de la Lorraine, me semble-t-il. Je ne sais plus s'il visite les asiles d'Alsace, je ne crois pas. Il va chercher les modèles étrangers et il explique que la France est restée coincée sur son modèle de pare-chape, hein, l'asile à la française, et qu'il faut s'inspirer de ces modèles nouveaux émergés à la fin du XIXe siècle en Europe. Alors, quels sont ces modèles? Eh bien, c'est le modèle notamment de l'asile-village à l'allemande. Alors, il va visiter plusieurs sites. Il visite notamment l'asile-colonie de Altscherbitz, qui a été construit en 1876, et celui de Galkhausen en 1900. Donc, vous voyez, il fait l'enquête en 1903, juste après la construction. Et lui défend désormais le modèle de l'asile-village. Alors, on pourrait se dire, c'est tout à fait audacieux quand même. En 1903, les tensions franco-allemandes sont déjà présentes. Mais il explique que c'est ça, la modernité. C'est ce plan avec des pavillons dispersés, tous différents, dans un grand espace végétal. Absence de murs à l'extérieur, absence de galeries entre les pavillons, absence de grille, différenciation maximale des pavillons, voilà ce qu'il défend. Il défend aussi, et ça c'est tout à fait neuf en France, ce qui existe parfois en Allemagne, la séparation entre des établissements pour aigus et des établissements pour les chroniques. Hein ? Il y a là quelque chose d'une réflexion en 1900 sur la distinction entre aigus et chroniques, qui est tout à fait nouvelle, me semble-t-il, en France. Alors, il évoque aussi d'autres modèles, notamment un modèle dans le Tessin, en Suisse, voilà, qui est assez proche de celui de de l'Allemagne et de l'asile village. Alors, cette réflexion de Paul Sérieux, cette enquête ne va pas avoir une grande influence en France. On pourrait se dire, bon, bah, c'est le fruit de la confrontation franco-allemande qui est en train de monter en puissance. On refuse le modèle allemand. Je ne crois pas du tout à cette explication. En fait, si on lit Paul Sérieux est tout à fait admiratif du modèle allemand. Et c'est un grand classique pour la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Il y a un vrai sentiment d'infériorité française dans de nombreux domaines, et notamment dans le domaine de l'architecture psychiatrique. Et là, on explique qu'il y a des passages très intéressants. Lisez sa conclusion. Alors, vous ne la trouverez pas sur Gallica, mais vous la trouverez à 50 mètres d'ici, dans l'excellente bibliothèque Henriet de Sainte-Anne. Sa conclusion, il explique qu'au fond, les Français sont des génies de l'inspiration. Ils inspirent les modèles, et après, c'est les Allemands qui perfectionnent. On a déjà quelque chose qu'on connaît bien encore aujourd'hui sur l'infériorité du modèle français. Il n'y a qu'une seule application assez tardive de ce modèle. En 1913, juste avant la guerre, c'est Fleury-les-Aubrais. Fleury-les-Aubrais, c'est une expérience très intéressante menée par Jean Reynaud, qui est un psychiatre très original, qui est féru de balnéothérapie, d'hypnothérapie, et qui va convaincre les édiles locales près d'Orléans de construire un nouvel établissement psychiatrique auquel il ne donne pas le nom d'asile, ce qui est tout à fait original pour l'époque. Hein, le terme d'hôpital psychiatrique, vous le savez, date de la fin des années 30. Là, on est en 1913, et il appelle cela un centre psychothérapique. Donc il y a déjà l'idée qu'il faut changer l'image, en quelque sorte, de l'asile, en changeant l'image, en changeant l'architecture de l'hôpital. Et qu'est-ce que c'est que le centre psychothérapique de Fleury-les-Aubrais ? Eh bien, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'asile village à l'allemande, avec des pavillons dispersés dans un espace rural ou forestier. On est, à cette époque, sur un espace de 220 hectares. Alors, l'entre-deux-guerres, qui n'est pas une période qui est beaucoup travaillée par les historiens, alors qu'il me semble qu'il se passe beaucoup de choses pendant l'entre-deux-guerres, notamment au moment de la Grande Guerre et juste après, eh bien, pendant l'entre-deux-guerres, le modèle à la française continue de vivre. Hein, il a déjà un siècle. Il va évoluer en prenant notamment du côté du programme hygiéniste. Hein, on l'a vu, et ici, vous avez un ouvrage qui est tout à fait typique du modèle défendu pendant les années 30. C'est l'hôpital de Mirecourt, dans les Vosges. Hôpital Ravenel, je crois que c'est son nom encore aujourd'hui, me semble-t-il. C'est un hôpital construit sur un plan de 1936. Il est ouvert en 1947, mais sur un plan de 1936. Donc c'est vraiment un plan d'entre-deux-guerres. Et on voit en fait que, alors sur un espace gigantesque, je ne sais plus si j'ai noté le... C'est 40 hectares, hein. C'est quand même moins que Fleury-les-Aubrais. L'idée de 100 hectares. Bon, alors j'ai pas tout compté dans les. C'est un hôpital psychiatrique par zone. Alors j'ai dû oublier une zone sans aucun doute. C'est un hôpital qui en 1936 est présenté par l'inspecteur général du moment qui s'appelle Régnier comme le modèle à suivre, même s'il a été assez coûteux, visiblement, dans sa construction. C'est un hôpital par zone, hein, où on explique qu'il faut bien différencier la zone médicale, avec ses quartiers de classement, et puis on est en pleine époque de la psychiatrie biologique, hein, et du début des thérapies de choc. Donc on met en valeur, si vous voulez, la manière dont l'hôpital psychiatrique doit se médicaliser. Hein, il s'agit aussi de montrer que la psychiatrie est l'équivalent finalement d'autres branches de la médecine. Donc on insiste beaucoup sur cet aspect médicalisation. Et puis on insiste beaucoup aussi sur la réduction de la taille des dortoirs. Ce sont des dortoirs d'une dizaine de lits dans le plan original. Et toujours évidemment l'aspect hygiéniste qui explique probablement cette structure en éventail. Voilà un petit peu le modèle de l'entre-deux-guerres. Alors, il y a un modèle dans l'entre-deux-guerres qui a été complètement oublié, c'est celui qui est... Alors ça, j'ai encore des... Voilà, c'est les vues intérieures de Mirecourt. Hein, vous voyez, on est dans le paradigme hygiéniste, hein, pour revenir sur un terme que vous avez utilisé. C'est les images à la construction donc de l'hôpital Ravenel. Quelque chose qui est complètement oublié et qui se développe dans l'entre-deux-guerres, alors là, je ne sais pas si ça fonctionne, voilà. C'est la manière dont les colonies vont être un terrain d'expérimentation architecturale. Dans les colonies, un certain nombre de psychiatres qui font table rase un petit peu de la médecine traditionnelle vont trouver appui auprès des gouverneurs, notamment Lyautey, hein, qui se rend très régulièrement au congrès des aliénistes, notamment en 1933. Et dans le cadre de la loi de 1838, en tout cas en Algérie, vont développer des programmes de réforme architecturale dans les années 20 et 30. Et même, ça commence pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'en fait, ce sont des psychiatres qui utilisent leur expérience de la Grande Guerre, leur action auprès, notamment leur action, je dirais, leur intervention précoce auprès des troubles psychiques de guerre, qui vont utiliser cette expérience pour réformer notamment les pavillons d'admission, hein, et essayer de faire deux entrées différentes pour les aigus, les chroniques. On a donc là, à travers notamment l'exemple de Blida, qui est un établissement construit en 1933, ouvert en 1933, non, construit en 1933 et ouvert en 1938, à partir du système pavillonnaire, je dirais, à l'allemande, hein, comme vous le voyez ici, et ce qui est une exception en France, eh bien, on va aussi développer, je dirais, des systèmes originaux d'acheminement des patients dans l'hôpital. Alors j'en viens à ma dernière période, ce qui me permettra de laisser un petit temps pour la discussion. C'est la période qui vient juste après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, l'asile a été même rebaptisé hôpital psychiatrique juste à la fin des années 30, a été mis en question, notamment en raison de ce qu'on a appelé, ce qu'une de mes collègues a appelé l'hécatombe des fous pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès la Seconde Guerre mondiale, les aliénistes, certains des aliénistes qui vont devenir les réformateurs d'après des années 40 et 50, vont rejeter le modèle de l'asile à la française tel que développé encore jusque dans les années 30. Alors je vous ai mis quelques extraits de leurs paroles, notamment celle de Balvet, qui en 42, c'est un des premiers à intervenir sur le sujet, dit la chose suivante. L'établissement que nous voulons n'est pas seulement un hôpital pour maladies du cerveau ou pour troubles nerveux d'origine biliaire. L'établissement futur possédera donc toutes les techniques de l'HP, mais humanisées, mais vivifiées. L'asile-village est seul adéquat à son objet. L'asile-village est élan, il est un corps qu'un esprit anime, il est pour tout dire une personne. Hein, il y a évidemment une grande critique de la psychiatrie biologique des années 30, mais il y a aussi, là, très clairement, la prise de l'asile-village comme nouveau modèle à développer. Et c'est ce que ces réformateurs vont réussir à faire dans le contexte de l'immédiat après Seconde Guerre mondiale. Alors, Balvet intervient, d'autres interviennent aussi pour critiquer tout ce qui ressemble à l'hôpital Bloch et qui se met en place après la Seconde Guerre mondiale dans l'hôpital général. Hein, il est hors de question pour ces psychiatres d'accepter que le modèle général de l'hôpital Bloch s'impose finalement à l'hôpital psychiatrique. Vous avez des articles en 1946 de Bonafé, par exemple, qui défendent cette idée et qui expliquent, par exemple, la rationalisation économique n'est pas applicable dans notre domaine. Hein, c'est peut-être une phrase qu'il faut réutiliser auprès de quelques-unes de vos tutelles, je ne sais pas. Bon, et puis vous en avez beaucoup d'autres, je ne les cite pas tous. Toujours est-il que ces psychiatres réformateurs vont appuyer la diffusion d'un nouveau modèle. C'est le modèle de l'asile-village à la française, qui n'est pas non plus complètement l'asile-village à l'allemande. Ce modèle, il est diffusé donc par ces réformateurs à partir de 1946. C'est le plan modèle de Laurent et Guimpel. Hein, vous l'avez ici, et c'est sans doute un modèle qui rappellera beaucoup d'architectures dans lesquelles vous travaillez pour certains d'entre vous. Il est diffusé et il est considéré comme le modèle maintenant à suivre dans l'ouvrage de 1949, qui est l'ouvrage de référence de Régnier et Baudouin, hein, Régnier, ancien inspecteur général, etc. Donc on dit, voilà, là maintenant c'est le modèle à partir de 1949. Logiquement, ce modèle va se diffuser. Alors vous en avez de très nombreux exemples, j'aurais pu en prendre un petit peu dans toute la France. Les hôpitaux-villages psychiatriques des années 60-70, j'ai pris ceux de la région que je connais un peu plus, hein, ceux des Pays de Loire, avec par exemple l'hôpital de Pompiétain, hein, à Blain. Je ne sais pas s'il s'appelle encore CHS de Blain, donc en Loire-Atlantique, qui est le fruit d'une, en quelque sorte, d'une déconcentration nantaise vers le nord du département. C'est un des premiers en France à être construit sur ce modèle, donc à la fin des années 50. Et on retrouve là toutes les caractéristiques de l'hôpital Viage à la française, avec la place du village, hein, qui est censé être le lieu de sociabilité autour desquels vont se retrouver les patients. Bon, on sait que c'est pas toujours la réalité dans la vie des hôpitaux psychiatriques aujourd'hui et même dès les années 60. Et puis des pavillons dispersés dans les espaces forestiers. On retrouve ce modèle à Allonne, près du Mans, construit donc en 69, toujours avec cette place du village, avec la place, la salle de spectacle, la chapelle, la cafétéria, et puis les pavillons dispersés. Bon, là, évidemment, l'architecture un peu standardisée des années 60 a fait son œuvre aussi. On le voit dans... Alors, ce modèle va rencontrer de très fortes critiques très rapidement, dès les années 60-70. D'abord parce que ce sont des hôpitaux qui sont le plus souvent très isolés. On disait tout à l'heure, hein, psychiatrie des villes et psychiatrie des campagnes. Là, on a une psychiatrie à l'origine des campagnes, mais qui va devenir rapidement une psychiatrie des villes, souvent rejoint par la ville, et puis critiqué aussi pour leur mode de circulation, pas toujours évident. Il semble que ces hôpitaux aient été construits un peu à contre-temps, puisqu'on est déjà, au début des années 70, dans le développement de l'idéologie du secteur, qui précisément conduit plutôt à aller construire de petites unités dispersées près des patients, et non pas à rester sur un hôpital central. Donc, c'est un modèle rapidement critiqué, et ça sera un petit peu le début de ma conclusion, un modèle à contre-temps. C'est aussi une époque où on commence à rapprocher la psychiatrie des hôpitaux généraux, ce qui pose la question de l'existence même d'une architecture psychiatrique. Hein, est-ce que ce n'est pas tout simplement une architecture hospitalière qui est intéressante ? Ce qu'on voit quand on regarde un petit peu les revues de médecine, de psychiatrie des années 70, c'est qu'il n'y a plus d'articles sur l'architecture psychiatrique. Il reste quelques petites contributions plutôt sur les hôpitaux de jour. Là, on voit se développer vraiment dans les années 70 les contributions sur les hôpitaux de jour, mais la question n'est plus d'actualité. L'architecture psychiatrique n'est plus, en tout cas dans les revues que j'ai consultées, qui sont des revues, médicales. Il y a peut-être des choses dans les revues d'architecture. Donc, il semble que l'architecture psychiatrique perde un petit peu de sa spécificité dans les années 70. Et puis, c'est le small is beautiful, hein, c'est vraiment le tout petit qui est privilégié. Et on s'intéresse à l'intérieur de l'architecture, hein, les matériaux, les couleurs. On commence dans les années 70, là, à s'intéresser aux espaces de transition entre la ville et l'hôpital. Il y a des choses qui sont publiées là-dessus et qui sont très intéressantes. Alors, ce qui est intéressant, et je conclurai là-dessus, c'est que c'est précisément le moment, fin des années 70, début des années 80, où on commence à classer les vieux asiles monuments historiques. Hein, et il y a une intervention que je trouve assez intéressante dans un symposium qui date de 1981, c'était il y a 30 ans, architecture et santé mentale, donc un symposium organisé par l'OMS, dans lequel le psychiatre Guy Bayon va intervenir pour dire finalement que les psychiatres ont été piégés, la psychiatrie même a été piégée par le monument songe architectural finalement du 19e siècle qui s'est perpétué, on l'a vu, jusqu'au moins les années 50 et 60. Et là, Guy Bayon explique qu'il faut privilégier plutôt deux choses dans la nouvelle architecture psychiatrique, la diversité dispersée, mais ça je crois que c'est déjà le programme de l'hôpital Village, et puis l'intégration dans l'habitat. Alors, je ne sais pas si on reverra tout à l'heure ces notions. Voilà, je vous remercie de votre attention.